Salut les marques et salut les smart et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Alors cette semaine, un SmackDown avait lieu le 16 mai 2017 à Manchester. Alors pas Manchester, Royaume-Uni, hein. Ils sont rentrés, ils ont repris l'avion, ils sont tous revenus à la maison. C'est dans le New Hampshire aux États-Unis. On est bien chez l'oncle Tom. Et c'était le Go Home Show, c'est pas n'importe quel SmackDown. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à nous chauffer là pour Backlash, le prochain pay-per-view, avec son poster boy venu du Japon? Nous allons voir ça ensemble. Au menu, Kevin Owens qui a inscrit Chris Jericho sur une liste. Et AJ Styles qui affronte le contender pour le titre suprême. La Fashion Police résout une nouvelle enquête vestimentaire. La division féminine fait naufrage sous les yeux de son capitaine. Le loup solitaire se fait mordre le cul par la vipère. Kevin Owens, qui nous accueille dans le Highlight Reel, le Kevin Owens Highlight Reel. Évidemment, il a hacké, il s'est approprié l'émission de Chris Jericho. Il nous rappelle justement que Y2J était obsédé par les écharpes, les cadeaux et les fameuses listes qui l'ont rendu encore plus célèbre et populaire auprès du public qu'il ne l'était déjà. Mais aujourd'hui, la seule liste sur laquelle Chris Jericho est, c'est la liste des blessés qu'il a envoyé. Hein, Kevin Owens a envoyé Chris Jericho sur cette liste. Et donc, il veut introduire son invité de ce soir pour le Highlight Reel. Car il peut le faire, il le fait en français justement, toujours dans cette provocation du francophone. Oui. Donc il nous fait une petite annonce, hein. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir mon invité, l'homme qui affrontera, avec son accent québécois que je n'oserais reproduire, puisque à chaque fois que je tente un accent québécois, je fais un accent belge ou suisse ou que sais-je, mais tout sauf l'accent québécois. La musique de AJ Styles a retenti dans le stade. AJ Styles qui reproche à Kevin Owens de voler justement le show de Chris Jericho. C'est pas bien de voler. Kevin Owens répond que tout ce que Chris Jericho a fait, il peut le faire en mieux. Comme, et là ça commence à attaquer, comme te battre par exemple AJ Styles. Donc on nous rappelle à notre bon souvenir cette rivalité entre les deux et Chris Jericho qui avait battu AJ Styles à WrestleMania avec le cheveu sur la langue. AJ Styles qui chauffe le public en mode USA, USA. On est vraiment dans de la cheap pop là. Un Jinder Mahal, justement Jinder Mahal qui apparaît tel un Pokémon sauvage. il commence à balancer des conneries en Punjabi. On joue la même partition que la semaine dernière en mode patriote, on va dire, si je puis dire. Les deux méchants qui prophétisent la défaite de leurs adversaires à Backlash. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans un petit teasing, dans une affiche croisée. AJ Styles affronte ce soir Jinder Mahal. Et c'est tout de suite et c'est maintenant. Ça nous arrange pour une fois que le match a lieu dans la foulée de l'intro. Ça m'arrange pour mon fil rouge, pour mon déroulé. Donc AJ Styles qui va subir les coups vicieux de Jinder Mahal. Mais il reprend le contrôle à la faveur d'un coup d'épaule entre les cordes. Kevin Owens qui est au commentaire. Qui fait travail de commentateur. Il se moque d'ailleurs des chants USA, évidemment. Les Singh Brothers, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, les anciens Bollywood Boys, donc les sbires de Jinder Mahal, qui essaient presque d'intervenir, pas beaucoup de succès. Jinder Mahal qui en profite pour décrocher la mâchoire d'AJ Styles, pris au piège dans le coin du ring. Le Phenomenal One parvient à s'échapper à la grâce d'un dropkick. Gros tacle, digne de la Ligue 2, c'est quoi, Domino's Pizza Ligue 2, non, en ce moment, comment ça s'appelle les sponsors
Si, la Domino's Pizza.
Conforama Ligue 1. Ou...
Il va y avoir la Conforama Ligue 1.
Aïe, j'ai mal à mon football français, bravo champion, monégasque. L'Indien, qui n'est pas de Monaco, pas de la Principauté, lui, il est canadien d'ailleurs, au passage, Jinder Mahal. comme Santino Marella, il y a beaucoup de Canadiens qui sont soit italiens, soit indiens. Donc il goûte un petit peu de l'indie wrestling hein, et du genou d'AJ Styles. Kevin Owens intervient dans le match, coup de ceinture sur le tendon d'AJ Styles. Jinder en profite pour placer son finisher de merde. 1, 2, 3. Victoire de l'Indien. Kevin Owens est fier hein, de sa connerie. Qu'as-tu pensé, Giscal, de cette intro et de ce petit match croisé? Est-ce que Jinder Mahal est toujours, comme on dit, mince, j'en perds mon latinus, crédible.
Crédible.
Un prétendant crédible.
Oh, ah oui, toujours crédible. Il est toujours crédible. Alors, dans l'ordre, l'intro, bah écoute, l'intro, j'ai bien aimé. C'était un de mes segments préférés de l'émission. Donc, on verra. Bon, c'est pas forcément bon signe, mais bon, c'était un des bons segments ce soir. Et voilà, j'ai bien aimé la réappropriation de la gimmick de Jericho avec son highlight reel. Il a repris quelques catchphrases de Jericho. Enfin, c'est la partition de Owen, c'était très solide dans cette ouverture. T'avais vraiment envie de le huer. J'ai bien aimé aussi l'accentuation qui est faite sur le nom de la ceinture. Hein. C'est plus le US Championship, hein, c'est le United States of America Championship. Mm-hmm. Hein, même les commentateurs appuyaient bien là-dessus. Alors, je ne sais pas si le nom perdurera ou si c'est parce que c'est Kevin Owens qui l'a, mais en tout cas, ils appuient vraiment beaucoup là-dessus. Donc, j'ai trouvé ça aussi efficace. Pareil, hein, je pense que quand on est américain, tout de suite, on se sent du coup plus galvanisé d'entendre le nom complet du pays. bon, la petite intervention de Jay Styles, tout ça. Enfin bref, toutes les interactions étaient pas mal. J'aime bien le fait de croiser un peu ces deux feux de le titre suprême et le quasi titre suprême, hein, parce que maintenant le titre US est tellement et par effet de miroir prend tellement le pas sur le titre suprême que du coup on se retrouve avec deux ceintures assez costauds. Donc du coup c'est pas trop mal fichu. Le match, par contre, je me suis un petit peu ennuyé.
Ah, c'était un peu mou quand même. Hein.
Ouais, comme quoi, bon, AJ Styles peut pas non plus faire des miracles. C'était assez mou. Il faut reconnaître que les phases de domination de Jinder étaient assez ennuyeuses, j'ai trouvé. Ça reste un bon match dans l'esprit, dans le booking, je trouve, parce que bon bah voilà, l'objectif était clair. AJ Styles était là pour adouber un petit peu Jinder Mahal dans l'ultime semaine avant sa confrontation. Parce que bon, AJ Styles, c'est quand même, c'était la top star hein, des derniers mois de SmackDown. Jinder se retrouve maintenant à avoir quand même eu des tombées successives en deux semaines sur Randy Orton et sur AJ Styles. Donc je pense que tu peux pas faire plus. Là, voilà, il est au top du momentum, donc c'est bien joué. Il continue à et puis en plus, comme on l'avait dit la semaine dernière, hein, il y a cette gradation un peu dans la présentation de la force du personnage qui est de moins en moins aidée quand même par ses compagnons. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des distractions, c'est normal, c'est partie du gimmick. Mais écoute, Jinder est un mec à prendre au sérieux. Donc bah là, il a capitalisé sur l'intervention de Kevin Owens, bien vicieuse.
Bon alors, si vous voulez rejoindre le fan club de Jinder Mahal, hein, envoyez votre cotisation directement à Giscal. Hein, et... Il vous inscrira
non,
sur la
pas,
liste.
Je ne suis pas fan. J'ai absolument pas envie qu'il gagne la ceinture ce dimanche. Mais bon, toujours est-il que je trouve que le boulot est correct. Après, bon, bah, c'est pas le catcheur le plus flamboyant.
Non, non, non. Mais voilà, en fait, c'est vraiment la chose qu'on peut reprocher. C'est qu'ils ont tenté. Ce qu'ils ont tenté était. Osé, évidemment, en mettant en first contender, hein, Jinder Mahal. Malheureusement, ce qui suit est d'un classicisme assez...
Ah oui, c'est très convenu. Hein.
Ouais. Très convenu, comme tu dis. Et du coup, ça retombe dans un sens, toi, où passer l'effet de
oui.
surprise. Alors, comme tu dis, ils font un excellent travail. Enfin, un bon travail.
C'était relatif.
Un bon travail pour booker le booker comme un contender. C'est pas tant qu'il le book comme un contender fort, c'est que grosso modo il nous faut le 101 comme on dit chez les Américains là
ouais.
de comment booker un comment faire monter enfin comment booker un first contender en vue d'un match pour le titre. Effectivement comme tu dis on fait battre plus ou moins la régulière les top stars du roster. On lui donne des sbires pour qu'il puisse s'en sortir tout le temps, et on lui fait réciter des promos
Ultra
racistes,
classique, voilà,
classiques. Et du coup, c'est décevant parce que, enfin, c'est décevant. J'en attendais pas forcément grand-chose, mais c'était l'occasion peut-être de d'explorer une piste différente. Alors là, j'ai rien en tête, toi, mais de nous montrer qu'il pouvait nous surprendre aussi au-delà de simplement faire gagner un locarder
Oui,
et
non,
nous
non, il n'y a
faire
rien de
monter.
surprenant, hein.
De
Oui,
toute
non, c'est sûr.
façon, Jinder Mahal, c'est le bébé de Vince McMahon, hein. Jinder Mahal, il était invité de Chris Jericho de son podcast là, il expliquait notamment que toute cette promo anti-américaine, en fait, c'était pas du tout prévu. C'est dernier moment, évidemment, Vince McMahon qui lui a dit dans la Gorilla Position là, Gorilla Room là, bah écoute, en fait, tu vas dire ça quoi, tu vas dire bande de sales américains, et tu vas parler en Punjabi, et tu vas continuer de porter ta toque là sur la tête, et puis on va te mettre des sbires qui te ressemblent comme des gouttes d'eau,
Ouais,
et voilà.
oui, c'est sûr que c'est pas compliqué, hein. La formule
Alors que
est.
lui voulait, enfin, visiblement avait plus une idée de mec jouer ce qui limite l'avait amené à obtenir ce title shot, les promos qu'il faisait à Talking Smack, c'était vraiment plus en mode voilà, enfin, je vais à la salle, je me bats pour montrer que je suis pas juste un low-carder, et je vais vous montrer. Un mec qui avait un peu la rage, toi. Et finalement, ça a complètement disparu au profit de ses promos plus classiques. Et c'est dommage parce que j'aurais préféré voir autre chose, mais bon.
Ils ont joué la carte ultra classique parce qu'il fallait qu'ils s'attirent les foudres du public le plus sincèrement possible pour pallier à ce manque de pop quand même flagrant hein, de Randy Orton en champion.
Eh ben Randy Orton, justement, on en parlera, hein, parce que ce sera le main event. On va repasser à quelque chose d'un peu plus léger, mais écoute, enfin, comment dire, léger, mais pas moins forcément, pas moins intéressant, en tout cas tout aussi divertissant, puisque on a un nouvel épisode des Fashion Files, hein, la team de police vestimentaire composée de Fandango et de Tyler Breeze. Alors Fandango, on les retrouve toujours dans ce poste de police. Il est justement à la recherche de son partenaire, et il tombe sur l'homme de ménage qui n'est autre au final que Tyler Breeze. Et Fandango, du coup, est stupéfait des talents
Talent de
de
déguisement, enfin
déguisement de son
de
partenaire.
camouflage.
Ouais, il est très très fort. Voilà, et donc ils font un petit inventaire. Alors, finalement, ils ont mis la main sur un. Alors, je sais pas s'ils ont mis la main sur un convoi, un stock de fringues. Voilà, ils mettent à l'amende plusieurs mecs. Ils parlent de Sami Zayn qui a toujours les mêmes fringues. Que le baron
Baron
porte toujours des
Corbin
t-shirts avec des loups.
et loup.
Voilà, hein, ils font un peu ils mettent à l'amende un peu tout le roster, et puis évidemment ils tombent sur les fameux t-shirts des Uso. Alors ils parlent des Day One Ish, là, ils comprennent pas trop
Ça veut
la
rien
vanne.
dire.
Day One Is H. Enfin voilà, il y a tout un, voilà, ils font toujours aussi preuve de naïveté, et ils sont toujours aussi crétins dans leur rôle, mais c'est ce qui les rend attachants. D'ailleurs, ils parlent des cheveux des Uso, c'est un peu étrange qu'ils soient aussi beaux, aussi bien nourris, etc. Chose intéressante, il retrouve son petit nickname de Prince Pretty, hein, Tyler Breeze. C'est plutôt marrant, enfin, ce petit clin d'œil, hein, de cet ancien nickname qu'il avait. Il parle. Enfin bref, voilà, il tease en disant que ce week-end ils vont gagner, et ils font une freeze frame à la fin où ils s'apprêtent à taper main dans la main, et ils ne bougent plus pendant 10 secondes au mannequin challenge, quoi. S'ensuit un petit match assez inintéressant entre Breezango et les Collins. D'ailleurs, on découvre leur adversaire. En fait, il y a une page de pub, et en fait, le match a commencé, et on découvre qu'en fait, effectivement, leur adversaires sont les colons. Un match où finalement, malgré les patates, hein, de leurs adversaires, ils sont excités comme des puces et disposent des anciens agents de voyage. Intervention des Ouzo à la fin du match qui viennent les clasher, hein, comme à leur habitude, en disant: vous êtes les gentils, on est les méchants. Ils jouent là-dessus en disant que ce sont les flics versus les bandits, etc. Mais que
Tôt
c'est
là.
pas, voilà, c'est pas leur. Alors, je sais pas comment on dit en français, leur precinct, non, leur zone, quoi. C'est pas le commissariat ici, c'est le pénitencier des Ouzos,
C'est le
quoi.
pénitencier, c'est ça, la prison des Ouzos.
On va vous démonter, vous avez bien compris vos droits, etc. Donc, c'est pas de la paranoïa, c'est des Ouzos. Donc, voilà, on continue hein, sur cette partition-là. Qu'est-ce que tu as pensé Est-ce qu'on arrive à teaser là un intérêt Quel est ton intérêt là pour ce match
Écoute, il est modéré, mais il reste vivant cet intérêt parce que c'est une affiche inédite, donc j'ai quand même envie de le voir. Ils ont réussi à développer un vrai sentiment d'attachement, tu l'as dit, avec la Fashion Police. Ils me font beaucoup rire. Je trouve qu'ils sont sympas à regarder. Dans le ring, ils sont plutôt agréables aussi. Je trouve c'est une bonne équipe, donc je suis content de les voir avoir cette opportunité. Un peu déçu du match qui aurait dû être, je trouve, plus décisif, comme ça a pu être le cas la semaine dernière quand ils avaient disposé plus facilement de The Ascension.
Ouais, là, ils ont un peu galéré.
Ils ont un petit peu galéré contre les Collins. Bon, j'imagine que c'était parce qu'ils ne voulaient pas non plus faire apparaître les Collins comme trop faibles, qui sont techniquement en rivalité contre les
Bah, c'est
American
ça.
Alpha.
C'est ça.
Mais bon, j'ai trouvé que du coup c'était un peu laborieux. J'aurais préféré un match un peu plus décisif, voilà, une victoire un peu plus flamboyante juste avant leur title shot. Mais bon. Allez, bémol mineur, j'ai trouvé leur petite vignette Fashion Police. Je trouve que c'était la meilleure de celles qu'ils avaient faites. Je me suis beaucoup marré.
Ouais, on trouve vraiment à un moment il a sa moustache qui tombe, Tyler Breeze, et il s'énerve en disant mais qu'est-ce que je fais avec cette moustache? Enfin, on sent qu'il. Tyler Breeze, il joue bien ce petit rôle
Ils sont assez bons dans
de
l'impro et
petit
dans les
mec en
petits jeux
stress, tu vois, alors que Elo t'es là pour le rassurer.
Donc, non, bon, écoute, c'est marrant, c'est des challengers. C'est l'archétype de la feu de transition avec des challengers attachants et puis bah écoute les Usos vont probablement gagner leur ceinture mais qui sait dans les semaines à venir si vraiment ça prend s'ils continuent à faire du bon boulot que le public vraiment il suscite un tel engouement qu'il y ait
Ah
une
oui.
vraie grosse réaction
Il ne
qui
faut
sait
pas
ça peut
oublier
être
la jurisprudence Heath Slater et Rhino.
Exactement, qui sait, ça peut être la belle histoire de 2017 au niveau des tag teams à SmackDown. Ça peut être, voilà, il en tout cas, je me fais jamais chier quand ils sont à l'écran. Je regarde ça avec plaisir et c'est souvent assez court et léger, donc ça me va bien.
Ouais. Moi, je serais quand même partisan de ne pas forcément les faire gagner tout de suite,
Ah non, non,
évidemment.
non, 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 c'est sûr. Non, non.
Il faut les. Ça marche bien, ils ont leur vignette, il faut continuer comme ça va rythmer.
C'est progressé.
Ça peut rythmer toute l'année, en tout cas jusqu'à SummerSlam, enfin toi, jusqu'à l'été, c'est
Ouais, déjà,
vraiment.
c'est pas
Et puis après, on verra, comme tu dis, si ça prend, ils auront leur opportunité. Mais c'est important aussi, quand même, que la division tag team de SmackDown soit pas
stabilise un peu.
que. Ouais, c'est que ce soit pas que de la comédie.
Non, non, évidemment, évidemment. Ouais.
Qui est le spotlight et les ceintures, toi. Malheureusement, quand la team de les American Alpha ont eu le titre, c'était le moins comédique. Enfin, ça faisait
Oui.
du bien d'avoir des lutteurs qui prenaient le titre. Et puis au final, on se
Après,
rappelle ce qui s'est passé, quoi. Donc,
tu peux
en
faire de la
l'occurrence.
comédie et avoir un gimmick complètement déjanté et à côté de ça être une équipe vraiment létale dans le ring, super balèze et tout
Et ils en ont la capacité,
et ils en ont la
justement.
capacité. Donc s'ils
Encore
trouvent le
plus
bon
que Heath Slater et
équilibre,
Rhino, où
oui.
effectivement. Enfin voilà, c'est des bons catcheurs, mais Breezango, c'est beaucoup plus flamboyant dans le ring.
Bah,
Donc.
c'est plus sérieux dans le ring. C'est vrai que même les matchs de Heath Slater et Rhino étaient bookés un peu sous forme de comédie. Donc là, s'ils trouvent le bon équilibre, moi ça me gêne pas qu'il y ait une gimmick un peu ridicule tant que c'est backé derrière avec du bon catch, quoi.
Alors, du bon catch qui s'annonce dans l'autre division, je ne sais pas. Mais en tout
Non, je
cas,
sais
on
pas.
a eu une grosse séquence pour la division féminine, puisque c'est de ça dont il s'agit. On a même eu droit, accrochez-vous bien, à la présence de Shane McMahon.
Eh
Et
oui.
oui, qui rappelle que SmackDown est le premier show, donc le meilleur show, hein, le flagship de la WWE. Bon, je pense que ça, on pouvait le dire il y a quelques mois. Là, ça se discute, comme disait
C'est
Jean-Luc. C'est bien
sûr.
connu d'ailleurs hein, que la division féminine y est pour quelque chose. C'est ce qui commence à nous sortir. Là, c'est un peu le lol de la promo.
Écoute, il défend son business, hein.
Il défend son business, mais bon, et des fois, hein, c'est un peu too much. Laissez-moi vous présenter, alors là il introduit tout le monde, les filles, hein, Tamina, Natalia, Carmella, et puis les vrais PGM, hein, Charlotte, Becky et Naomi, la championne.
PGM.
Natalia qui rappelle à Becky la main tendue, refusée,
Oui.
hein, là voilà, on a pleine tractation politique, hein, on est dedans, on fait écho à l'actualité française, c'est sympa. Il nous la rejoue en mode Bret Hart, là, Natalia, hein, elle radote, hein, évidemment. Becky Lynch, elle réplique qu'elle est impatiente de baffer chacune d'entre elles. Naomi veut couper les couilles à James Ellsworth. Charlotte les encourage à ramener le big game, hein, le grand jeu, là, pour Backlash, et rappelle qu'elle compte bien reprendre sa ceinture, la couronne, son bien en regardant Naomi et la ceinture plus précisément. Donc ça, c'était pas mal. James qui en place une pour Becky Lynch. Hein, il a pas peur, hein. Il se lève. Non. Il lui dit qu'elles ont aucune chance avec lui. Il se fait un peu rabattre le clapet, même carrément. Carmella n'est pas contente. Elle saute sur Naomi. Elle lui éclate plutôt la gueule, hein, sur la table. C'était assez violent.
Ouais.
Et puis, bah, comme les meufs sont totalement hystériques à ce moment-là, et ben, on leur bouque un match.
Femmes, hein. Ouais.
C'est ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On leur bouque un match parce qu'à la base, on avait visiblement rien prévu pour elles.
Il y avait une signature de contrat, ça devait bien se passer normalement.
Il y avait une signature de contrat, alors c'est vrai que ça j'en ai pas parlé parce que c'était tellement sorti de n'importe où. Enfin, une signature de contrat pour un 3v3 sans enjeu.
Ouais.
C'est ça que j'ai reproché, vraiment, que je reprocherai à cette séquence. Mais avant de balancer mes griefs, on va enchaîner sur le match du coup, hein. Cette belle affiche, Naomi versus Carmella, qui dû en faire mouiller
long, hein.
Plus d'un. Ouais, un match de merde, hein, avec Becky Lynch et Charlotte Flair, qui étaient là, les pieds plantés dans le sol. Elles savaient pas trop quoi faire parce que visiblement.
Mais elles sont gentilles, donc elles peuvent rien faire.
Ouais, bah enfin, t'as gentil et gentil. Là, c'était vraiment quand Naomi se faisait tabasser en dehors du ring. Elles veulent rester là, plantées, droites comme des piquets. On sentait qu'il allait se passer quelque chose à la fin et qu'une fois de plus, elles attendaient qu'une chose, c'est que leur séquence arrive. James Ellsworth, hein, qui se fait virer des abords du ring parce qu'il est trop impliqué dans le match. Tamina et Natalia aussi. Alors ça, j'ai pas très bien compris. La raison est un peu moins flagrante, il me semble.
Oui.
On a vraiment joué le
délit de sale gueule.
Ouais, voilà, le délit de sale gueule. Toi, tu rentres pas. Vos papiers, s'il vous plaît. Carmella est hystérique, hein, vraiment, là, plus que jamais, là, moi j'en peux plus, dans le ring. Elle en profite, justement, elle profite du grabuge ringside pour coller Naomi au sol par un petit roll-up des familles alors qu'elle est en train de regarder à l'extérieur. 1, 2, 3, victoire de Carmella. Est-ce que on est en mode radeau de la Méduse là pour la division féminine où il faut juste attendre et tout va bien
juste
et serrer
attendre,
les dents et c'est juste un mauvais moment à passer.
C'était un mauvais moment. Moi j'étais plutôt la caution positive des filles depuis quelques semaines. Bon, c'était pas bon cette semaine, c'était pas bon. La signature de contrat, ça venait comme un cheveu sur la soupe, on n'y croit pas deux secondes. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de stipulation, il n'y a pas d'enjeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de signature de contrat? Pas la peine d'enrober le truc. Si vous vouliez juste les faire une promo assise dans le ring, vous n'étiez pas obligé de faire ça. Non, j'ai pas trop accroché. Et surtout qu'en plus, quand tu te rends compte que la caution micro du segment, c'est James Ellsworth, tu te dis que là, c'est quand même la merde. Parce qu'au final, c'est lui qui a fait le segment au micro quasiment, juste après que les six se soient balancés leurs répliques bien convenues, chacun de leur tour. Non, c'était pas terrible. Ça m'a pas donné plus envie de voir le match, ça m'a pas donné moins envie non plus, mais bon, ça n'a rien fait, en tout cas dans une optique de go home show, je trouve que ça n'a rien apporté. On fait pas spécialement monter la sauce, le match derrière est trop long, on n'a pas, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai pas envie de voir 12 minutes de Carmella contre Naomi.
C'est vrai, oh là là, t'as raison, c'était 12 minutes là, c'est-à-dire quasiment aussi long que les deux grosses affiches quoi.
C'est presque une durée de main event de weekly, donc bon, c'est pas, on n'a pas spécialement envie de voir ça.
Non.
Donc non, c'était trop long, c'était pas bon dans le ring. C'était autour du ring, c'est comme tu l'as dit, c'était pas bon non plus. C'était des chorégraphies autour du ring,
ouais,
les interventions.
Ouais, c'était pas organique, toi, c'était pas fluide, c'est vraiment.
Non.
Trop,
ça collait pas. J'espère qu'elles en ont sous le pied quand même pour dimanche, parce qu'elles ont les moyens de faire un truc sympa à 3 contre 3 dimanche. Donc bon, j'espère que ce sera un peu mieux. Moi, avant ce segment, moi, je restais convaincu que pour faire souffler un peu la division, une petite guerre de gang et tout, ça pouvait être sympa.
Ouais, bien sûr. C'est une bonne idée.
Malgré tout, il faut reconnaître que Bah, ils n'ont pas réussi à enflammer le truc. Et puis alors maintenant, quand on essaye de regarder au-delà de cette guerre de gang, si jamais l'issue du match indique que potentiellement on se dirigerait vers Carmella contre Naomi comme feu de derrière, bon, c'est pas forcément ce que j'attendais pour relancer la machine derrière. Donc oui, c'est pas passionnant ce qui s'annonce parce que bon, Carmella, c'est quand même pas ça. Donc ouais, c'est pas super enthousiasmant tout ça.
Non, non, c'est pas enthousiasmant. Et puis, là, j'ai l'impression de retomber dans les travers de Raw, période. Ah, vous avez bien vu là, hein, c'est la révolution féminine là. Hein, vous avez bien vu, regardez, le GM il se déplace, enfin,
Ouais.
commissionnaire il se déplace. On rappelle que c'est les meilleurs, que la division féminine c'est fantastique, c'est ça qui fait tourner la baraque, qu'on a des super talents.
Peut-être un peu too much.
Ils sont obligés de nous rappeler que les filles sont géniales, alors que, en plus, le timing est assez mauvais parce que justement, là, c'est pas très passionnant ce qui est en train de se passer. Ça devrait l'être plus tard, le jour où on aura enfin cette money feud dont on parle là et qui tarde un peu à arriver.
Bah, il va y avoir quelques étapes avant, hein, parce que
Ah
si,
ouais, malheureusement, ouais. Donc voilà,
si Carmella, surtout que Charlotte a bien précisé pendant la signature de contrat que, écoute, les filles ont fait ce 3v3, mais après, je viens pour ma couronne.
Ouais, bah
Hein,
voilà, qu'on fasse ça,
ça,
quoi, qu'on nous fasse.
oui.
Et ça va être, enfin, Naomi versus Charlotte, ok, toi.
Peut-être y avoir Naomi Carmella avant, je pense quand même.
Oui, il faut que Naomi défende un peu son titre, là, contre des low-carders. Ça, y a pas de doute, enfin, il faut un petit peu quand même arrêter de se repasser la ceinture comme ça, sans défense de titre. Mais bon. C'est quand même pas terrible. Écoute, une autre affiche qui a un petit peu de mal à. Enfin, un petit peu de mal. Qu'il faut booker, parce qu'après tout, c'est quand même un des protagonistes et sur le poster. C'est Dolph Ziggler versus Nakamura. Et backstage, on a une petite séquence. Alors, spoiler, on ne verra pas Nakamura cette semaine non plus.
Non plus.
Paraît-il qu'il fait les dark matchs.
Oui, il fait les dark match.
Ah,
Ouais.
d'accord. Donc, ce qui est signe souvent de confiance totale, parce que souvent c'était John Cena et compagnie, hein, qui
Oui.
étaient habitués à cet exercice qui consiste à faire un match une fois que la diffusion télé est terminée, pour que les gens restent jusqu'au bout,
Oui.
que les gens commencent pas à quitter les gradins avant la fin de la
Exactement.
retransmission télé, parce que bah, ça fait tâche.
Oui. Donc c'est généralement toujours un beau petit match, le
C'est
dark
souvent un beau
match.
petit match de gala, voilà, où il y a pas mal de déconnes et les faces gagnent.
Voilà, plutôt en mode house show, ouais, c'est ça.
Voilà, vraiment house show. Bon, le problème est que bah, Nakamura, on le voit pas une fois de plus. C'est Dolph qui fait monter la rivalité, et il le fait pas trop mal cette semaine. Puisqu'il nous explique que, bah, toujours dans cet esprit, mauvais esprit de dire, mais c'est qui Nakamura, c'est qui ce type, il a rien fait, regardez, j'ai fait des recherches pour vous, donc il a googlé Nakamura
Sur WWE.
sur www.com, et voici mes trouvailles. Il a trouvé finalement une petite vidéo qui retrace tous les hauts faits du japonais, et évidemment, la vidéo qui s'ensuit, c'est vidéo footage not found, donc on a un bug, quoi. Enfin, il a rien trouvé,
Il y
hein.
avait rien,
Il n'y
quoi.
avait rien à voir, pas de vidéo, résultat zéro. Il dit, bah, par contre, bah, regardez, j'ai fait une recherche sur moi, je me suis googlé, hein. Il faut toujours se googler, c'est important, avant un entretien d'embauche notamment,
Vous.
voilà, pour voir votre personal branding, qu'est-ce qui se dit de vous, qu'est-ce qui est accessible. Et là, on a eu un beau package vidéo, des hauts faits, effectivement, de Dolph Ziggler. De sa prise de titre, de son Money in the Bank à sa prise de titre. C'était l'occasion de se rappeler les bons moments de Dolph Ziggler. Évidemment, sa rencontre avec Shinsuke Nakamura, en mettant en avant évidemment les moments où c'est lui qui avait le dessus. Écoute, c'était pas mal, c'est plutôt bien fait. Moi, ça m'a rappelé les manigances du Miz à son égard. Ça lui a donné
Un
des
petit
idées,
peu.
visiblement. Il lui a donné la carte de visite du petit monteur vidéo qui avait fait le boulot. Je sais pas ce que t'en as pensé. Est-ce que toi, l'absence de Nakamura est préjudiciable, là, comme ça, à une semaine,
Non.
de la rencontre?
Non. Enfin, non, je pense pas. Je pense que c'est un peu c'est une stratégie classique de. pour donner envie, on va dire, de regarder le pay-per-view. Si vous voulez vraiment voir Nakamura, ça va se passer en pay-per-view. C'est une, il a un traitement de méga star, on va dire, qui ne me choque pas. En tout cas, après, il a intérêt à, ça a intérêt à être suivi des faits et il a intérêt à back it up comme ils disent, hein. Mais non, ça me choque pas qu'il soit pas là. Voilà, on fait monter la sauce. Nakamura sera au pay-per-view. Si vous voulez le voir, si vous voulez voir le premier match de Nakamura, la première action, mise en action du japonais, ce sera à Backlash. Donc c'est une stratégie, on va dire, marketing très standard. C'est la stratégie à la Brock Lesnar, hein. C'est le prize fighter. Il combat pas. Alors évidemment, c'est pas comparable à la situation de Brock Lesnar, mais je trouve que pour le premier match de Nakamura à la WWE, excluons évidemment NXT, mais dans le main roster, c'est quelque chose qui se tient du moment que la rivalité est bien montée chaque semaine par Dolph Ziggler, ce qui est le cas depuis 2 semaines. Je trouve que l'angle est beaucoup plus intéressant que les segments, on l'a dit, hein, la semaine dernière. Je pense que je pourrais copier-coller mon commentaire parce que on est exactement dans la même veine. On n'est plus dans le stand-up comédie à se foutre de la gueule de ses cheveux, de sa couleur de veste ou de savoir s'il ressemble à Michael Jackson ou pas. J'aime beaucoup le fait d'axer la rivalité sur finalement le gimmick de Dolph Ziggler qui a besoin qu'on se réintéresse à son personnage. Et son personnage est beaucoup plus intéressant là maintenant. Et d'ailleurs, voilà, la semaine dernière, on avait dit, je trouvais que Dolph Ziggler était beaucoup plus efficace en heel quand finalement il se plaignait et il frustrait finalement son audience sur ce qu'il aurait pu être en fait, parce que Dolph Ziggler, c'est un super athlète, c'est un catcheur qui aurait pu avoir une carrière exceptionnelle et qui a eu une carrière fantastique que beaucoup, 90% du roster lui envie, je pense. Mais le voir se plaindre constamment, le voir manquer les grands rendez-vous, les grandes occasions, finalement nous donne envie de le huer, d'être frustré, quoi, tu vois, de se dire, mais putain, mais t'es vraiment, tu fais chier, quoi, un bon coup de pied au cul et regarde ce que tu pourrais faire. Et je trouve que le segment de cette semaine était encore mieux que la semaine dernière parce que en se vantant, il nous a mis face à ce que Dolph Ziggler pourrait être aujourd'hui si il avait capitalisé à fond, parce que c'est double champion du monde, 5 fois champion intercontinental, champion U des États-Unis, champion par équipe, Money in the Bank, il est du coup Triple Crown champion. Enfin, il a tout fait quasiment. Et
Oui,
le
non,
fait
non, bien sûr.
De le montrer à l'écran comme ça et de le voir se plaindre en mode jobber de base et tout, nous donne envie, je trouve, de lui filer des claques et de se dire, mais t'es vraiment un petit con,
Oui, t'as bien
genre.
énervé, c'est bien, ça a bien marché.
Non mais tu vois, je trouve que c'est intelligent comme positionnement parce que il a les moyens de faire quelque chose et pourtant il en joue pour se faire huer, donc je trouve que c'est intelligent. Et à côté de ça, de faire le parallèle avec, voilà, Nakamura qui n'a encore rien fait et qui est porté au nu, qui est sur le poster et tout, et qui du coup est une superstar acclamée du public alors qu'il a rien fait. Voilà, je trouve que le parallèle est beaucoup plus sympa et donne déjà une opposition de style plus intéressante que je suis le show-off et toi t'es Michael Jackson et on verra bien ce qui va se passer. Donc voilà, moi ça m'a personnellement donné plus envie de voir le match, donc je trouvais que c'était du bon boulot.
Ouais. En fait, moi, je est-ce que ça m'a donné de voir plus en pas forcément de voir le match, mais en tout cas de m'intéresser à la rivalité.
Oui.
Le match, j'ai vraiment peur parce que Nakamura, il peut faire le grand écart. Hein. Il va te sortir un super match contre Sami Zayn à NXT. Et puis après, il va te faire des matchs de feignasse contre
Oui, évidemment, évidemment. Quand je dis que ça m'a donné envie de voir le
Samoa
match,
Joe, je
c'était.
crois, ou non, c'était contre Bobby Roode. Oui, c'était contre Bobby Roode. C'était pas extraordinaire.
Il y a eu des matchs contre Samoa Joe qui n'étaient pas dingues non plus.
Ouais, donc il a intérêt là. Enfin, là, ils peuvent pas se louper. Ils
Ah
peuvent
non,
pas
non,
se
non,
louper
par
pour
contre,
le match.
c'est le baptême du feu, c'est le grand test. L'un comme l'autre, s'ils veulent que la rivalité soit importante et que ça relance Ziggler et que ça lance Nakamura, il faut que le match soit très bon, je pense. Ouais.
Ouais, et puis dans les hauts faits de Dolph Ziggler, pour conclure ce chapitre là sur le chat, il y a Guillaume qui nous parle du Spirit Squad. Finalement, avoir réussi à s'extirper du Spirit Squad, c'est un haut fait, rien que pour ça, il devrait être
Exactement,
introduit au Hall
exactement.
of Fame.
Non, mais il faut quand même se souvenir d'où il vient, quoi, le mec. Hein.
Ah, il s'en est pris des sauts de merde sur la tronche, pour de vrai, en plus. Écoute, on arrive au main event. Et oui, on arrive au main event, mais avant ça, on a une petite séquence backstage avec Sami Zayn qui a une petite annonce. Il est allé voir le commissionnaire, j'imagine. En tout cas, il allait réclamer un match contre le Baron qu'il a obtenu pour Backlash. Donc voilà, petit match booké, petite défaite bookée pour Sami Zayn à Backlash, c'est sympa. Bravo Sami. Il commence à chauffer et bam, le Baron vient lui casser le crâne. Merci d'être passé. Randy Orton, quant à lui, est interviewé par ce qui reste de Renee Young. Il dit pas grand-chose d'ailleurs. Par contre, ça nous tease donc le main event qui oppose ce soir la vipère au loup solitaire. Randy Orton versus Baron Corbin. Randy Orton qui tente hein, de placer assez rapidement sur RKO. On a l'habitude, mais le baron est vigilant, on ne la lui fait pas. Il compte donc donner une petite leçon à la vipère à coups de botte dans la tronche. Randy ne veut rien comprendre, il s'obstine, il commence même à power slammer le baron. On ne power slam pas le baron ainsi, il est obligé de
Non, non,
monter d'un cran. Le baron, il place son Deep Six des familles. La charge du baron reprend, mais RKO from out of nowhere. 1, 2, 3, victoire clean de la vipère sur le baron, c'est pas rien. La célébration est courte, de courte durée, puisque Jinder Mahal, évidemment, et ses boys hein, se jettent sur la vipère. Et on se quitte sur une belle image de Jinder Mahal brandissant le titre suprême au-dessus d'un Randy Orton dans les vapes. Qu'as-tu pensé de cette affiche, mon bon Giscal?
Elle lui va bien la ceinture quand même.
Ah, putain. Oh là là.
Non, non,
Franchement, qu'est-ce qu'on en dit des conneries dans ce podcast quand même?
non. Qu'est-ce qu'on dit
Elle lui va bien la ceinture.
écoute, bon, je me suis pas éclaté. De toute façon, de manière générale, on n'a pas été gâtés hein, dans le ring cette semaine.
Non.
Ce qui est fou, parce que je pense que ça doit être l'épisode de SmackDown où en cumulé, on a eu le plus de catch depuis très longtemps.
Ouais, quasiment une heure. Hein.
Mais pourtant, enfin, il y a aucun match
Non.
qui m'a vraiment enflammé. On était un peu dans le même schéma que le premier match, le Jinder Mahal et AJ Styles. Un vétéran contre un jeune qui doit faire ses preuves.
L'objectif était un peu différent, du coup.
Et là, oui, la logique, la dynamique était un peu différente, mais dans les deux cas, je trouvais que c'était assez convenu, assez mou.
Quand
Là
on sait
pour
que déjà de base, quand tu mets Randy Orton, c'est assez convenu.
Oui, voilà. Alors, à la limite, l'opener avait le mérite d'avoir AJ Styles qui enflammait un petit peu le truc. Là, pour le coup, Baron Corbin n'a pas forcément été aidé par un Randy Orton que j'ai trouvé peu motivé, peu impliqué dans ce match. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, du coup, bon, ça a donné un affrontement assez quelconque. Sur le résultat en tant que tel, il est logique. La hiérarchie est respectée. Toujours un peu délicat de faire perdre quelqu'un clean juste quelques jours avant un
Ouais,
paper.
ah, surtout le baron, hein, qui justement était bien protégé ces dernières semaines.
C'est
Donc
vrai.
bon, là, on va, de toute façon, on va lui donner la victoire face à sa misaine. Donc
Et je passerai l'éponge parce que juste avant dans l'émission, il a eu un petit segment où il a éclaté la tronche de Sami Zayn. Donc,
c'est une victoire en soi.
une petite victoire en soi. Donc
Ou du moins un
bon,
petit plaisir personnel.
donc je considère que ça va. Il a quand même perdu contre le champion du monde, donc tout va bien. Mais bon, toujours un peu compliqué de booker ces matchs de Go Home Show quand on veut faire des finishes un peu clean. Au-delà de ça, voilà, bon, bah, match un peu mou. Intervention à la fin de Jinder Mahal, logique, qui finit donc triomphant et qui, selon les lois universelles du booking inversé, devrait donc s'incliner dimanche dans son match, malgré le fait que qu'est-ce qu'il a l'air bien avec cette ceinture, j'ai des doutes. Voilà.
Bah, en fait, c'est pas là où j'ai des ce qui me met le doute, moi. Bon, je te rejoins, c'était vraiment un match de feignasse. Même si le baron, au moins, a toujours cette belle hit. Hein,
Toujours, ouais. Non, mais
voilà.
il est, moi, je trouve qu'il est très solide, hein. Il a fait un beau main event, le baron, j'ai rien à lui reprocher.
Voilà, bon, il était un petit peu moins protégé là, du coup, mais bon,
Forcément.
voilà, c'était. Je veux dire, c'était logique, malheureusement. Mais pour revenir sur Orton. Orton, Ok, il s'est sacrifié à SummerSlam face à Brock Lesnar, il s'est fait péter le crâne. Ok, après, on lui a donné un putain de run avec une putain de rivalité, enfin de storyline, en tout cas au niveau de SmackDown, avec la Wyatt Family. Tout ça pour, grosso modo, lui donner la ceinture à WrestleMania. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Mais
Oui.
après. Et après, c'est ça le truc, c'est que, ok, Randy Orton, on lui a donné la ceinture à WrestleMania, un titre de plus, mais l'histoire s'arrête là en fait. Et le programme, l'après WrestleMania pour Randy Orton, il est terriblement vide et creux. Et ok, on en profite pour mettre Jinder Mahal. On parle de rivalité, de transition pour donner tout en donnant l'occasion de briller à un ancien locardeur méritant qui a fait preuve de bonne volonté, qui a pas renié à la tâche, visiblement. Je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment un programme derrière pour Randy Orton, tu vois? Parce que.
Bah, on peut imaginer que il va y avoir un Randy Orton AJ Styles qui serait loin d'être impossible et pas dégueu
Oui.
parce que on le sentait un petit peu avant WrestleMania cette rivalité si AJ Styles restait à SmackDown ils se sont affrontés une fois et c'était assez prometteur et je pense que ça peut être un programme tout à fait possible. Moi, j'imaginais bien un programme aussi contre le Baron. C'est aussi pour ça que je trouve un petit peu dommage de le refaire perdre une nouvelle fois contre
Ouais,
Randy Orton
c'est ça.
avant le pay-per-view. Je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que ça aurait pu être un autre règne, un autre programme de transition aussi pour Randy
Mais
Orton qui
ouais,
aurait
Randy
fait.
Orton, en fait, d'ailleurs, il a vaincu. C'est dommage aussi. Ils ont éteint tous les potentiels contenders, on va dire un peu mid-card, qui auraient pu justement prolonger artificiellement
Oui,
son règne avant le big match-up pour voilà pay-per-view de haut rang. Je repense notamment à Luke Harper ou
ouais.
ces genres de
Luke
catcheurs
Harper
qui
aussi, en effet, ils ont un
sont.
peu galvaudé le match,
Ouais, c'est ça,
ils
où
l'ont
ils
donné.
ont cramé leur rencontre. Alors, c'est. Voilà, enfin, ils peuvent se retrouver une fois dans le ring et avoir une autre dynamique,
Alors.
etc. Mais.
Écoute, ouais, je sais pas ce qui est le plan pour Randy Orton après. De toute façon, ouais, moi j'aurais bien vu Baron Corbin après et AJ Styles ensuite. On verra et Nakamura en bout de course, mais pas forcément contre Orton. D'ailleurs, il aura peut-être perdu la ceinture d'ici là contre AJ Styles, un truc comme ça. Mais bon, je sais pas quel est le plan après sur le constat là au jour d'aujourd'hui. C'est un peu dur de tout remettre en cause 4 semaines plus tard parce que voilà, on savait post-WrestleMania dès le SmackDown post-WrestleMania, on avait fait le constat qui était que SmackDown est parti sur une logique manifestement de transition jusqu'au prochain pay-per-view Interbrand. Après WrestleMania, ils ont fait monter du monde, ils ont fait monter des nouveaux challengers, des nouvelles têtes. Donc ils sont partis du principe, voilà, ils sont partis dans cette direction-là. Qui est de proposer du Jinder Mahal, du Breezango, qui est de remodeler un petit peu la scène féminine. Donc c'est un peu dur de dire, je trouve aujourd'hui, que oui, c'est pas enthousiasmant. Après, je pense qu'il faut partir du principe que c'est une période de transition. Il y en a souvent à cette période-là de l'année. C'est soit là, c'est soit en automne, après SummerSlam. Où on a toujours des challengers un peu moins fringants, un peu moins clinquants, parce qu'il faut assurer un peu de stabilité sur les champions actuels. Le problème aujourd'hui, c'est que le champion actuel, c'est Randy Orton. C'est jamais évident. C'est un débat qu'on pourra avoir pendant longtemps. C'est très compliqué de booker, je trouve, un champion face dans la durée. Parce que par définition, un face, c'est un challenger, c'est un mec, c'est un poursuivant, on a envie de le voir faire tomber la montagne.
Bien sûr,
Et
n'importe quelle histoire, une
dans
fois que le
toujours, dans
face
toujours.
a gagné,
Voilà, exactement.
l'histoire
C'est très
s'arrête.
compliqué. Voilà, c'est très compliqué de garder un face au sommet. Et à part des cas très particuliers de champions qui sont vraiment presque avec une pop organique du public à la Daniel Bryan ou des trucs comme ça qui peuvent durer dans le temps ou des
Bon, en l'occurrence, ça n'a pas trop duré dans le temps, Daniel Bryan,
Non,
ses
bon,
règnes.
le pauvre, c'était la santé qui l'a rattrapé lui aussi, mais bon. Ou des mecs un peu comme John Cena. C'est vrai que Randy Orton, face, ça n'a jamais vraiment bien fonctionné historiquement hein, en tant que champion. Mais c'est aussi du fait que ça reste compliqué de proposer un règne passionnant quand tu enchaînes des challengers heel. Donc, écoute,
Écoute,
je.
là, il y a sur le chat le nom de Rusev a
Ouais,
jailli.
c'est vrai, on
C'est
l'oublie,
Tristan là qui a balancé
Rousseff.
ça.
Ouais.
Effectivement, rappelons-nous que Rusev balance des vidéos où il tente de prendre en
D'ailleurs,
otage la
il
direction.
devait pas être là cette semaine, Rousseff. Il n'avait pas dit la semaine dernière dans une vidéo qu'il serait
Il y a
là cette
beaucoup de gens qui
semaine
doivent
pour.
venir à SmackDown, mais ils
Bon,
prennent
ils
leur
attendent
temps.
peut-être après Backlash, du coup.
Ouais,
Mais.
ouais, ouais. Écoute, moi, ça me ferait bien plaisir, tiens. Rusev qui débarque et qui
Voilà, Rousseff a un bon
versus
challenge
Randy
alors.
Orton.
En effet, voilà. Je n'avais pas pensé, c'est une bonne
Et
remarque.
ouais, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, c'est ainsi que se termine donc ce Go-Home Show. Et on va donc balancer nos tops, nos flops et notre note pour le mot de la fin. Donc, Giscal, à toi l'honneur. Eh ben oui,
Alors,
c'est comme ça, mon beau monsieur.
oui, ma bonne dame. Hein. Alors, mon top et mon flop. Alors, mon top, je vais le donner à Dolph Ziggler encore une fois cette semaine qui m'a fait plaisir. Écoute, c'est un top. J'ai du mal à trouver quelque chose de vraiment qui m'a enthousiasmé cette semaine. J'avais hésité un peu entre Kevin Owens, qui je trouve a fait une bonne intervention, et Dolph Ziggler. Je vais le donner encore une fois à Dolph Ziggler pour l'effort parce que ça fait 2 semaines que du coup, bah, il porte un peu la rivalité, mais au moins il la porte mieux qu'au début. Donc voilà, ce sera mon top cette semaine, mais pas
Ouais.
transcendant. Et mon flop, écoute, mon flop, j'en ai pas mal. Je vais le donner aux filles, je pense. Je vais le donner aux filles cette semaine. Parce que c'était pas terrible. On en a déjà parlé. Hein. C'était un segment mou qui n'a rien apporté au match, qui ne les a pas forcément mises en valeur. Donc voilà, j'ai pas trouvé que quelqu'un avait tiré son épingle du jeu là-dedans. Et sur ma note, je vais être un peu sévère cette semaine. Je vais donner un 2.
Ouh, aïe, 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 aïe.
Je vais donner un 2 sur 5 parce que bon, c'était pas un bon go-home show, je pense qu'il faut le dire. Le pay-per-view en soi a une carte quand même très inégale. Hein. Il y a du Luke Harper contre Eric Rowan. Il y a ce 3v3 entre les filles. Il y a Randy Orton, Jinder Mahal qui va pas atteindre des sommets. Il y a Ty Dillinger contre Aiden English en pré-show.
Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas vu aussi, c'est pareil.
Bon, hormis Nakamura Ziggler qui peut être à double tranchant et Kevin Owens contre AJ Styles, je suis pas sûr qu'on passe le dimanche le plus flamboyant de l'histoire de SmackDown. Donc, à côté de ça, ils ont pas fait du bon boulot, je trouve, pour nous donner envie de plus voir ce pay-per-view que ça. Et à côté de ça, on a eu presque 3 quarts d'heure de catch qui était énorme. Et on en ressort avec rien, je pense, en souvenir mémorable. Donc, c'était pas un très bon épisode de SmackDown cette semaine.
Écoute, sur le top, bah écoute, bah moi je vais le donner à Kevin Owens. Voilà, effectivement, j'avais mis un peu les mêmes que toi. Une belle promo de la part du Canadien. Pour mon flop, bah j'avais mis la séquence féminine. On va pas s'attirer sur l'ambulance. Du coup, bah je vais le mettre justement, comme tu le disais, là, la qualité des matchs. Enfin, l'excitation qui ne jaillit pas des matchs justement qu'on a eu. Enfin, le catch, effectivement, le ratio. Temps donné au catch pur
Là, il est faible, hein.
versus excitation du truc, on était quand même dans un ratio assez merdique. Et bah en note, je pensais déjà être bien, enfin sévère. Non, assez juste mais sévère. Sévère mais juste. J'ai mis 2,25, donc toi je ne suis pas
Eh
allé
ben,
aussi bas que
ouais.
toi, mais ça reste quand même effectivement, j'aurais pu mettre moins en fait. Parce que c'était franchement, enfin. En fait, c'était quand même assez merdique, ce truc. Donc, la note reflète assez mal la merditude. Ah, c'est fort, mais enfin, comme tu l'as dit, hein, c'est quand même un go-home show. Il faut nous exciter pour un pay-per-view
Pour un
qui est
pay-per-view
pas
qui
gagné
part de
d'avance avec
loin.
des
Ouais.
affiches assez
Ah
bancales.
bah. Ça fait pas très pay-per-view, hein. Ouais.
Et ouais, comme tu dis, enfin, ils sont plantés sur le Gomme Show quand même. Donc en fait, ouais, je laisse mon 2,25 parce que je vais pas le changer comme ça, mais ils sont plantés, quoi. C'était pas un bon Gomme Show.
Non, c'est pas un bon Gomme Show.
C'est pas une belle, enfin, c'est du coup et du coup ça donne pas une bonne carte alors que les affiches sont pas affreuses, toi.
Non, évidemment que c'est pas affreux. C'est juste que c'est des matchs qui avaient besoin quand même d'un, qui avaient besoin de hype, quoi. Parce que,
Ouais.
en fait, y a pas de match qui se vend tout seul. À part Owens
À
contre
part Owen,
Styles,
c'est juste raison.
et la présence de Nakamura, y a rien sur la carte qui te dit, oh putain, faut que j'allume le network dimanche parce qu'il faut
Ouais.
que je vois ça,
Du
quoi.
coup, tu dis, bah, je regardais comment ils l'ont vendu.
Ouais, et bon, bah.
Et en fait, quand tu regardes comment ils l'ont vendu, bah, putain, ils l'ont pas bien vendu. Donc,
Non.
les monteurs de package vidéo, là, ils vont avoir du boulot. ça va être. Ouais, ils vont y arriver, mais putain, à ce moment-là, on sera déjà en train de regarder le pay-per-view. Donc,
Ouais.
ce sera déjà
Et
trop
qui
tard.
sait, peut-être que nous aurons un nouveau champion du monde à la fin de la soirée, qui rendra la chose encore plus compliquée.
Ouais, j'arrive pas. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être surpris à ce
Non,
point-là?
non, non. Moi,
Enfin.
non, mais là, je rigole, mais moi, je peux donner mes pronostics. Je pense que Jinder Mahal va se faire écrabouiller, mais bon, je
Oui, quand même. Enfin. Ouais, non, non, non. Et puis surtout là, on vient de me teaser là, le retour de Rusev là sur le chat et du coup, ça
Non,
me
mais c'est vrai que c'est une bonne remarque, je l'avais complètement oublié et
je
je
suis bien
pense.
chaud là. Je suis bien chaud. S'il revient en mode vraiment badass destroyer, en plus il vient de se faire larguer visiblement par Lana qui est partie voler de ses propres ailes.
C'est ça.
Donc pourquoi pas. Eh bien merci à toi Giscal d'être pour
Merci, comme
voilà,
toujours,
tes
c'est un
fines
plaisir.
analyses. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Catch Up, votre podcast des Cahiers du Catch sur iTunes et PodCloud pour la version audio, mais également sur YouTube pour la version vidéo. En plus, maintenant, on fait du live de temps en temps, comme là par exemple, hein, donc on peut discuter en direct sur le chat, Twitter, Facebook, Catchup CDC, hein, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, lescahiersducatch.com et son forum, hein, pour retrouver la fine plume propre, voilà, à ce...
Voilà, c'est cette plume si particulière des Cahiers du Catch,
Ah oui,
hein.
si vous voulez des articles
Transgressive, humoristique.
politico-catchesques,
Ouais.
voilà, c'est lescahiersducatch.com que ça se passe. Commentez, partagez, notez, poussez sur YouTube, sur iTunes. N'hésitez pas à mettre des notes, nous mettre 5, 4, 3, 2, 1 étoile, des pouces bleus, des pouces en bas,
Pas
des
trop,
pouces
quoi.
en haut.
Pas trop.
Et partagez les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Donc on se
Faites
donne rendez-vous.
pas comme Rousseff et Cesaro là, enfin et Cesaro comme ça.
Ah,
Ça marche
raise the
pas sur
bar.
YouTube, ça. Ouais.
Raise the bar. Bientôt on aura peut-être ça, hein. Tu sais, ils vont peut-être mettre voilà, un spectre de pouces. Bref, le prochain rendez-vous, gros rendez-vous pour nous en tout cas, c'est
C'est le clash, hein.
Backlash, hein, le pay-per-view de ce dimanche.
Sera peut-être surpris.
Voilà.
Ah
De toute façon, on verra, on va l'analyser et puis on verra ce que ça a donné.
Je ne vous donne pas d'autres pronostics puisque je veux conserver ma bonne place au classement. Donc je
Ouais,
ne donne pas d'autres pronostics.
les pronos, hein, n'hésitez pas sur lescahiersducatch.com, hein, vous pouvez pronostiquer, vous pouvez également pronostiquer chez nos amis voisins de Feud of the Year.
Le Feud of the Year aussi, absolument.
Voilà, pour détrôner Giscal.
Ouais.
N'hésitez pas. Et donc, bah, rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour
Eh ben oui.
l'après-backlash.
Allez.
Ciao,
Ciao.
salut!
Salut tout le monde. Bon, attends, je vais essayer de regarder ce que je vais déjeuner alors.